les podcasts Ludomag.
Aujourd'hui, nous rencontrons Simon Faux, fondateur du cabinet Ephios, qui analyse avec nous les 10 tendances pour le numérique en éducation en 2021. Ephios a pour ambition de bâtir l'enseignement de demain sous la forme de conseils, de services et de formations à l'attention des décideurs de l'éducation.
Le cabinet Ephios a été créé il y a 13 ans pour accompagner les décideurs de l'éducation sur tout ce qui est projet de transformation, innovation, numérique, data. Et du coup, on travaille pour trois types de clients, des clients internationaux, UNESCO, CDE, etc., des clients nationaux, ministères, établissements publics, et des clients territoriaux, collectivités, universités. On a juste un positionnement, on travaille que pour les structures d'intérêt général pour éviter tout conflit d'intérêts.
Avant de découvrir ces 10 principales tendances de l'éducation numérique de demain, voyons avec Simon quelles ont été les méthodologies pour mettre au point ce cahier de tendances.
La première difficulté qu'on a eue pour pouvoir savoir ce qu'était une tendance, on a commencé de manière extrêmement basique à faire une revue de littérature internationale pour essayer de voir qui faisait quoi en matière de tendance pour l'éducation. Et ensuite, pour le confronter au contexte français, parce que l'idée, c'était pas de faire des tendances hors sol, mais plutôt d'essayer de faire des tendances qui peuvent aider nos clients. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de méthodologies qui existent autour de, on va dire, de la façon dont on décrit une tendance. Je ne sais pas si vous connaissez les courbes Gartner qui existent à peu près dans tout. C'est on prend des objets et il y a des courbes d'acceptation pour essayer de voir si jamais c'est une tendance qui émerge, au contraire qui est en pleine expansion, qui est en phase de rejet ou au contraire d'adoption. C'est des courbes qui sont vraiment très très intéressantes pour nous, mais déjà qui n'ont pas été mises à jour depuis très longtemps. Les dernières auxquelles on a eu accès ont quasiment 7-8 ans. Et d'autre part, le fait que ce soit orienté objet, imprimante 3D, etc., pour nous, c'était pas inintéressant, mais c'était pas vraiment très structurant en termes de politique publique. Toutes celles qui soit étaient proches des objets ou proches des tendances, l'IoT, etc., qui étaient proches de techno, nous semblaient un peu trop génériques. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est on va repartir plutôt de fonctions. À quoi servent dans les tendances, on a pris trois parties pris. Le premier, c'est de partir des fonctions plutôt que des objets technologiques et de plutôt de rattacher les objets technologiques aux fonctions qu'ils ont dans les politiques éducatives. On s'est dit qu'on n'allait pas prendre toutes les dernières tendances en tant que telles, simplement l'IA, etc. Pour nous, il y a plein de choses comme les espaces numériques de travail qui sont extrêmement vieux maintenant, qui ont une vingtaine d'années, mais qui, avec le confinement, ont été réassurés, réaffirmés. On voit que les courbes d'usage ont été très, très importantes. Et pour nous, on s'est dit que la tendance, ça voulait pas dire qui est le dernier qui vient d'arriver, mais au contraire, que ce soit des tendances longues ou récentes, les traiter de la même manière. Et enfin, on ne s'est pas limité à un objet en tant que tel. On a essayé, on n'a pas du tout la prétention de l'exhaustivité. Là, le cahier de tendance qu'on a fait est extrêmement large. Mais voilà, c'était juste un exercice pour essayer d'inspirer les gens ou qu'eux nous inspirent en nous disant « mais vous avez oublié ça et pour moi c'est très important ». Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a partagé sur les réseaux et merci encore Eric de permettre de parler avec les gens de ce que c'est que l'éducation d'aujourd'hui et de demain.
Alors, on observe que la crise sanitaire a rebattu les cartes concernant certains points de vue que nous avions sur des technologies ou des services proposés dans l'éducation, en particulier les espaces numériques de travail qui ont pu redémontrer tout leur intérêt, notamment avec l'école à distance.
C'est certainement un des plus gros effets du confinement, c'est de montrer que finalement le travail à distance a des contraintes énormes et en même temps il offre des opportunités. Et on va dire tout ce qui pouvait être considéré comme alors il y avait des gros projets très structurants hein, comme It Winning pour faire on va dire des partenariats entre classes à l'échelle européenne, etc. Pour on a vu beaucoup de collectivités faire des efforts pour que des intervenants qui soient artistes professionnels puissent intervenir dans la classe, mais souvent à distance. La seule chose, c'est qu'on voit que la réflexion de ce que c'est qu'une classe connectée et comment est-ce qu'on peut soit depuis la classe enregistrer des choses et diffuser ou intégrer des personnes. On voit que Archiclass a publié des guides en France, mais on voit que dans tous les pays, il y a eu un vrai changement de paradigme, et qui concerne pas que l'éducation, hein, qui concerne les entreprises dans leur entier. Le télétravail, qui était vécu comme quelque chose d'exceptionnel, etc., est devenu la norme en période de confinement, bien sûr, mais devient quelque chose de beaucoup plus naturel et de beaucoup plus négocié. Et finalement, on voit que toute cette ouverture, toute l'hybridation, etc., elle est amenée à être repensée et de manière extrêmement joyeuse, en fait, pour que chacun puisse trouver sa place et puisse contribuer à l'éducation des enfants. En France, il y a beaucoup de gens qui remettaient en cause la stratégie ENT qui a été bâtie dans les années 2000 en disant ce sont des vieux objets numériques, il faut suivre la tendance qui est dictée par, on va dire, toute l'ébullition des startups américaines où on a maintenant en parallèle X réseaux sociaux entre les réseaux sociaux, on va dire, privés, hein, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, TikTok, etc. Tous les réseaux sociaux professionnels hein, qui ont émergé, alors Slack, Teams et les autres. Et on voit que, en plus de ça, on va dire, il y a eu beaucoup de gens qui disaient il faut arrêter avec cette vision unitaire de l'espace scolaire. Il faut avoir des espaces qui sont extrêmement simples, qui sont très diversifiés, etc. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le fait d'essayer de dézoomer à travers ce cahier de tendance, c'était de se dire aussi, ben, finalement, ce n'est pas ce qui a été retenu. C'est-à-dire que l'idée de faire un espace scolaire numérique qui soit protégé et rester la norme, et plutôt que de se dire ben, on va tout mettre à la poubelle, les collectivités, les académies, les territoires ont décidé plutôt d'enrichir les services. On voit que, bien sûr, l'intégration de systèmes de visioconférence, de classes virtuelles, etc., c'est beaucoup accéléré. Et on voit que la vision du futur, c'est de garder un espace scolaire dans lequel les données personnelles sont préservées, dans lequel il n'y a pas de pub, dans lequel on sait ce qu'on fait, mais d'intégrer de plus en plus de services. Et pour nous, c'est intéressant de voir que ce n'était pas une évidence il y a un an. Et maintenant, je pense que ça l'est.
Donc au-delà du socle de l'ENT, hein, tel qu'il avait été
Exactement.
préconisé, on rajoute des couches et qui sont de plus en plus intéressantes, effectivement, au vu de la transformation, qui rejoint d'ailleurs le thème de l'ouverture, hein, puisque c'est aussi lié à ce genre de choses. Il faut bien un support technologique qui permet en fait de faire une extension de l'espace scolaire. Et la base ou le socle de l'ENT est enrichi de ces nouveaux supports technologiques le permettra, donc une très belle tendance. Dernière tendance que nous souhaitions analyser ensemble, Simon, la personnalisation des outils, hein, ou la personnalisation des parcours d'apprentissage, l'adaptation des parcours d'apprentissage avec des tableaux de suivi pour les enseignants et de l'intelligence artificielle derrière tous ces moteurs pour analyser les réponses.
Derrière l'IA, il y a tout ce qui est, on va dire, enrichissement des données. À notre avis, il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux et des millions et des millions de dollars qui sont dépensés actuellement dans tous les pays. Il y a une vraie course pour essayer de comprendre ce que peut faire l'IA à l'échelle individuelle. Pour nous, la France a quand même une carte à jouer parce que elle a pris une optique. C'est pas de faire de l'IA, on va dire, où l'élève est seul face à la machine. La stratégie qui a été portée, je dirais, collectivement par le ministère, mais je pense pas que ça reste profondément dans l'ADN de la France, c'est que l'IA doit améliorer la relation du prof à son élève et doit lui permettre de mieux l'accompagner, de mieux amorcer ça. Et on voit que les questions d'IA, bien sûr, elles sont très importantes. Sur la trace et l'interaction avec l'élève, mais il faut aller vers une couche qui est au-dessus. C'est comment est-ce que l'IA peut permettre à l'élève de mieux être, au prof d'être mieux informé et d'être meilleur. Et pour nous, même au-delà, de voir comment est-ce que les décideurs peuvent être beaucoup plus réactifs grâce à l'IA dans la plupart de leurs décisions. Actuellement, le pilotage par la donnée. À mon avis, encore à ses débuts, et il y a encore énormément de choses à faire pour que les décideurs territoriaux puissent mieux accompagner les établissements, les profs et par là même les élèves.
Alors Simon, notre entretien va peut-être se conclure, mais je souhaitais rebondir quand même sur des choses qu'on a vues récemment, notamment au cours des États généraux du numérique, hein, qui est porté par le ministère. Il m'a semblé que les mots sécurisés, qui sont d'ailleurs dans le carnet de tendance, hein, qui est proposé par EFIOS, et également un retour sur la volonté de libre, de gratuit, de public, la force du public. Est-ce que c'est une tendance que vous avez remarquée, que vous avez mesurée dans votre cahier de tendance?
Ce qui est certain, c'est que d'un point de vue macroéconomique, on voit qu'actuellement, toutes les plaques Chine, États-Unis, Europe sont en train d'essayer de se reconstruire d'un point de vue numérique pour avoir des écosystèmes qu'elles maîtrisent. Donc, au-delà de l'éducation, ce qui est certain, c'est que avoir des écosystèmes qui sont cohérents et sur lesquels il y a une souveraineté, ça reste une tendance extrêmement lourde. Et comment est-ce que ça se traduit en France? C'est dans le fait de mettre en place des outils qui permettent de passer, j'ai envie de dire, du juridique comme le RGPD. On doit protéger les données personnelles. Pour l'instant, si jamais on devait être un peu taquin, à part cliquer sur OK à chaque fois qu'on va sur un site web, ça n'a pas eu énormément d'impact. Enfin, en tout cas, ça a eu des impacts qui sont quelquefois un peu. Enfin, qui sont peu matériels pour les usagers. Je dis en toute transparence, on accompagne un projet auquel on croit beaucoup, c'est le gestionnaire d'accès aux ressources, qui permet aux élèves, quand il est installé, d'accéder à toutes les ressources en préservant les données personnelles. C'est une démarche qui nous semble extrêmement intéressante, et c'est pour ça qu'on l'accompagne. Pourquoi? Parce qu'on voit que au-delà, préserver les données personnelles, ça demande de discuter avec les éditeurs. C'est-à-dire que les éditeurs, eux, ils innovent, ils ont besoin de faire des choses qui sont très personnalisées et ils ont besoin de données personnelles pour ça. Et le projet consiste non seulement à déployer territorialement la solution, mais également avec l'ensemble des fournisseurs de ressources qui exercent en France, de discuter autour de, d'accord, vous avez besoin de faire ça, mais comment est-ce qu'on peut minimiser les données? Comment est-ce qu'on peut éviter d'avoir des liens vers l'extérieur qui vont faire que l'élève va passer d'un environnement dans lequel il est, on va dire, il est à l'école, d'un environnement dans lequel il est dans un supermarché numérique? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte, et encore une fois, personne n'a de vérité, et la vérité, elle se construit ensemble grâce à des gens qui sont intelligents et qui essayent de faire de leur mieux. Et ce projet-là, pour nous, il illustre la sécurité de demain. Ce n'est pas une sécurité qui est, on va dire, non, on ne fait pas ça, etc., quoi. C'est une sécurité dans laquelle on fait des tours d'interaction, on voit où sont les failles et on les corrige au fur et à mesure.
Est-ce que le renforcement d'un écosystème autour des headtech françaises ou européennes, on va dire, on va parler plutôt d'Europe, hein, puisqu'on parlait de plaques américaines, Chine, enfin du moins Asie et Europe, on voit que l'État américain, il y a quelques jours de ça, donc c'est un peu inquiété de la volonté de l'Union européenne de rapatrier en fait toutes ces données. Donc bien entendu, les données sur l'éducation sont les une des plus sensibles, hein, puisqu'on parle de données qui concernent les jeunes, hein, et les élèves. Est-ce que effectivement l'émergence d'une EdTech européenne ou française est une voie pour solutionner un petit peu ce souci? Parce qu'on est quand même, mine de rien, hein, tous les produits dont on a parlé, ou les technologies, notamment en visio, dont on parle en ce moment, ben, il n'y en a pas beaucoup qui sortent de la cuisse de Jupiter, je dirais.
Alors, je pense que c'est trop tôt pour répondre à cette question-là, Eric. C'est-à-dire que pour moi, dans le grand plan de relance européen, les 750 milliards qui ont été levés à titre collectif, ce qui est certain, c'est qu'il y a pour l'instant, de ce que je sais, hein, je ne suis pas un spécialiste de l'Union européenne, mais pour l'instant, ils ont décidé qu'il y avait sur l'énergie, par exemple, l'hydrogène, sur lequel plusieurs milliards allaient être dépensés. Ce qui est certain, c'est que sur le numérique, ça reste une des colonnes vertébrales du plan de relance. Dans quelle mesure le numérique éducatif en tirera parti? Je pense que il y a encore, tout reste ouvert. Et du coup, c'est à chaque gouvernement, je pense, et à chaque écosystème nationaux d'essayer de proposer des projets suffisamment attractifs et suffisamment. La difficulté, je pense, du numérique éducatif, c'est que vis-à-vis de ce type de plan et des plans de relance en particulier. C'est tout ce qui est dispersion, c'est-à-dire qu'on demande plein plein de petites enveloppes qui au final ont assez peu d'impact. C'est de savoir comment est-ce qu'on peut construire collectivement des projets qui ont une taille suffisante pour déjà attirer des milliards, parce que c'est comme ça que ça va se passer, et d'autre part pour en faire quelque chose qui change le quotidien des profs et des élèves. Et ça, à mon avis, tout reste à faire.
Et bien sur cette belle phrase, Simon Faux, nous allons nous quitter pour vous remercier également d'avoir participé à ce podcast Ludomag sur les 10 tendances dans l'éducation et notamment les 10 tendances dans le numérique pour l'éducation. Nous vous invitons à consulter Ludomag, hein, pour avoir un petit peu plus d'informations et bien entendu le site du cabinet EFIOS qui vous permettra d'aller plus loin dans l'analyse de ces tendances. Merci.
C'était les podcasts de Ludomag.